Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local pour cette dernière émission de la semaine, toujours autour de l'actualité en Mayenne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 février et au menu de cette émission, on va parler de la mini-entreprise au collège de Cran qui vous propose des cabanes garnies et au-delà même de l'objet produit, vous le verrez, ça leur sert beaucoup en termes de cohésion de groupe et pourquoi pas pour l'avenir aussi. On va retrouver aussi cette interview d'Archimède, et oui, le groupe mayennais, même lavallois plus précisément, avant leur concert dimanche en ouverture des semaines de lutte contre les discriminations. Ça, on en parlera lors de l'interview. Et puis, ne manquez pas la chronique sport en fin d'émission. On va zoomer sur le joli parcours des basketteuses castro-gontariennes en Coupe de France jeune. Mais tout de suite, on va retrouver Simon qui était en stage avec nous toute cette semaine pour un point sur l'actualité. Avec Simon, cette nouvelle médaille d'or française aux Jeux Olympiques ce matin.
Oui, merci Marie. Exploit de Justine Brezaz-Boucher sur les pistes pékinoises. La Française de 25 ans s'impose sur la Mastart, épreuve reine du biathlon. Les Norvégiennes Thierry Lekhoff et Marte Holsbo-Reuseland complètent le podium. Chez les hommes, pas de sixième médaille, en six courses pour Quentin Fillon-Maillet puisqu'il termine à la quatrième place de la Mastart. C'est le Norvégien Johannes Bø qui décroche la médaille d'or.
Et puis du côté du football, Laval reçoit Avranches ce soir.
Oui, les Tangous vont tâcher de maintenir leur leadership au championnat. Cependant, il faudra faire sans Yasser Baldé ni Maxence Carlier qui sont blessés. On note quand même le retour de suspension de Brian Concalves. Les Tangos reçoivent donc Avranches, 12e de National, ce soir à 19h au stade Francis-Lebasser.
Le plancher d'une maison s'est en partie effondré hier à Saint-Denis-d'Anjou.
Les pompiers sont intervenus hier vers 16h dans ce logement situé route d'Angers. Heureusement, il n'y a pas de blessés dans cet accident. Pour éviter que le plancher s'effondre, les pompiers ont installé des étais au rez-de-chaussée afin de soutenir la structure. Les trois occupants ont été relogés par la municipalité en attendant l'expertise du logement.
À Saint-James-le-Robert, une vingtaine de vaches retirées pour maltraitance.
C'est une information Ouest-France. Les services vétérinaires de la Mayenne sont intervenus hier dans la matinée dans une exploitation agricole à Saint-James-le-Robert pour enlever à leurs propriétaires 24 bovins avec d'importants problèmes de malnutrition. Ils ont été confiés provisoirement à une association, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir.
Et puis le nombre de Mayennais surendettés, lui, diminue.
Moins 12,4% en 2021 par rapport à 2019 selon la Banque de France. Ça correspond à 626 dossiers de surendettement déposés l'an dernier. La Mayenne reste le deuxième département le plus endetté de Pays de la Loire, après la Sarthe. Le profil de ces personnes, c'est des primo-accédants, beaucoup de jeunes qui ont emprunté pour acheter une maison ou un appartement, un peu plus de femmes que d'hommes globalement, et beaucoup de personnes en CDD ou des intérimaires.
Et puis vous l'avez certainement remarqué, ça souffle en Mayenne ce vendredi.
Et oui, puisque Météo France et la préfecture de Mayenne placent le département en vigilance jaune et incitent à la prudence en raison de vents puissants ce vendredi. Il faut quand même noter que cette vigilance jaune s'applique à tous les départements de la partie nord du territoire.
Et puis c'est le dernier week-end de deux vacances dans la région. Attention donc sur la route du retour.
Et oui, Bison Futé sort le drapeau orange aujourd'hui en Île-de-France dans le sens des départs. Le drapeau rouge sera même de mise demain. En région Auvergne-Rhône-Alpes pour le départ et les retours. C'est drapeau vert, cependant, en Pays de la Loire, ce dimanche.
Et puis, je vous en parlais en tout début d'émission, à 14 ans, ils créent leur mini-entreprise au collège du Prieuré à Cran. Les élèves de la classe 3e Calo, la 3e professionnelle, ont créé leur propre boîte à oiseaux panier garni. Des recherches pour établir le projet jusqu'à la vente de leur boîte, en passant par la création du logo et la recherche des partenaires locaux pour le miel, yaourt et jus de pomme, les élèves se sont occupés de tout et continuent de s'occuper de tout, accompagnés par leur professeur et un mentor. Emeric, Victor et Oriane reviennent sur cette expérience.
Il y a eu 4 groupes de faits. Un groupe avec une cabane à oiseaux, un groupe avec du jus de pomme, un groupe avec du miel et un groupe avec yaourt. Du coup, l'idée, c'était de créer un panier garni avec une cabane à oiseaux. Dès que les personnes achetaient la cabane à oiseaux et les produits, ils avaient juste à enlever les produits pour récupérer la cabane à oiseaux. Donc moi, j'ai été dans le groupe miel. Donc là, le miel, on a eu le partenariat avec la boîte aux abeilles à Courbevel. Ce que j'ai appris depuis le début de l'année, c'est le travail de groupe, la recherche d'une idée pour le projet.
J'étais dans le groupe de la cabane à ce moment-là et on a dû faire tout ce qui était plan, chercher les matériaux de la cabane, soit en le faisant en bois de palette, soit en planche, et on a regardé quelque chose qui pouvait être recyclé, donc directement on a pensé aux palettes. Et ce que je préfère pour l'instant, c'est tout ce qui est le bricolage, tout ça, monter les cabanes, tout ça. On a commencé déjà par tout ce qui est couper les palettes, tout ça, planche par planche. Ensuite, on a fait un autre atelier qui était au ponçage. Et on commençait à ce moment-là par un autre atelier qui était l'assemblage des cabanes. Ce qui m'a plu, c'est tout ce qui est monter la cabane, après chercher le projet qu'il fallait faire.
Bah, on est fiers de ce qu'on a fait. Ce qu'on en tire maintenant, c'est que tout le monde est capable de faire une mini-entreprise. Et que même si on est jeune, bah, tout le monde, même avec un petit peu d'aide, on est capable d'en faire. Je croyais pas être capable, mais de me mettre en avant et parler devant des gens. Je suis un peu timide, mais donc ça m'a un peu donné de la valeur, bah, de la confiance en moi.
Et les commandes de cabanes garnies sont ouvertes jusqu'à vendredi prochain sur le site Hello Asso en cherchant Artizoco, le nom de leur projet. La livraison de la commande, elle, est prévue le 1er avril prochain. 20% des ventes sera donnée à l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. On va passer au concert d'Archimède qui est proposé dimanche dans le cadre des semaines de lutte contre les discriminations. Ce sera l'ouverture de l'événement, mais juste avant, une autre musique, un autre groupe, Papouze, avec Good Times on Earth. jusqu'au bout, on en profite. C'était Papouze, Good Times on Earth, dans l'AJT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va rester en musique avec toi, Simon, avec le groupe Archimède aussi, qui donne le coup d'envoi des semaines d'éducation contre les discriminations.
Et oui, puisque du 28 février au 31 mars, le collectif Unissons nos différences organise une campagne de lutte contre diverses discriminations en mettant en place des ciné-débats, des expositions ou encore des ateliers. Archimède donne le concert d'ouverture ce dimanche à partir de 15h au Théâtre de Mayenne. Les frères Nicolas et Frédéric Wallard nous ont accueillis dans leur studio pour nous parler de cet événement et de la vie du groupe.
Comment s'est déroulé le processus entre votre prise de connaissance du collectif UND et le concert de dimanche ?
J'en entendais parler par des amis qu'on a en commun, entre la structure, l'UND et puis nous-mêmes. Et je trouve que c'est des valeurs, les leurs, dans lesquelles on se retrouve. Lutter contre les discriminations, ça me paraît plutôt être une bonne chose. Et puis d'autant plus par les temps qui courent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pointés du doigt ces derniers temps. Donc c'est bien de s'engager dans ce type d'événement.
En 2018, Nico, tu disais dans Le Cargo qu'il y a dans Archimède un engagement et une fibre sociale sans être un groupe militant. Et donc, est-ce que cette fibre sociale, c'est un fil rouge dans l'histoire d'Archimède ? Est-ce que vous construisez vos textes autour de cet engagement, de cette fibre sociale ?
Alors oui, il y a une fibre sociale qui assurément traverse chacun de nos albums. Ça fait partie de notre ADN et en même temps, je persiste et signe sur le fait qu'on n'est pas des militants, quoi. On n'a jamais le poing brandi et surtout, on ne veut pas faire du militantisme une espèce de fonds de commerce. Certains artistes en France ne sont pas mauvais là-dedans. Ça devient vraiment un commerce, quoi. Donc non, nous, on est d'abord un groupe de pop. On fait on assume de proposer une forme de divertissement, mais le divertissement n'interdit pas de dire des choses engagées qui sont solubles dans un format musical. On a des chansons qui parlent de l'homophobie avec Dis-le-nous, de la transidentité avec Presqu'île. Donc oui, il y a une forme d'engagement, des chansons comme Bye Bye Bayer, Les Petites Mains, et même dans le dernier, il y a toujours de l'engagement, pas dans chaque titre, parce que encore une fois, c'est pas un fonds de commerce, mais on est toujours rattrapé par notre vie de citoyen, voilà, par notre vécu de citoyen.
Ce concert, donc, c'est le fruit d'un collectif luttant contre les discriminations. On l'a vu, vous avez parlé de plusieurs discriminations. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous vous sentez un peu plus concerné, un peu plus sensible ? Et est-ce que vous prévoyez des actions similaires à l'avenir autour de cette discrimination en particulier ?
Je pense que la principale, c'est quand même le problème de l'identité quelque part sexuelle, notamment avec la chanson « Dis-le-nous », où là, ça parle clairement d'une personne qui n'arrive pas à dire autour de lui qu'il aime un homme, en fait, et c'était quelqu'un de notre entourage très proche. Et nous, on l'avait perçu, mais c'était un peu gênant, quoi. Pour lui, pour nous, on sentait que c'était compliqué. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a touché et marqué, d'où cette chanson. Après, ça rejoint ce que disait Nico, on n'a pas le poing brandi pour aller dans la rue, etc. C'est des formes de messages qu'on passe, mais ça reste des pensées, des idées qu'on a, mais c'est jamais engagé. On ne va pas s'engager dans des choses. Par contre, si on est sollicité, comme là, sur cette opération-là, on dit oui parce que ça fait écho à ce qu'on pense et à ce qu'on fait. On n'adhère pas à un parti politique ou on n'est jamais à soutenir un parti politique, mais quand il y a des causes fortes et importantes, faut être là quand même.
Autre chose, est-ce qu'avec un concert comme celui-ci, vous vous attendez à retrouver un public d'habitué ou est-ce que vous pensez plutôt retrouver des visages nouveaux qui viennent soutenir cette initiative ? Et une question dans la question, est-ce que vous attendez beaucoup de monde ?
A priori, le concert devrait finir complet. Il reste à peine une vingtaine de places là à l'heure où on se parle. Donc c'est dimanche, donc les gens en plus viennent de nos jours le plus souvent au dernier moment. Donc on pense que ce sera assurément complet. En termes de public, ce sera assez matiné, j'imagine, assez transversal. Hein. On aura il y a certains de nos fans qui viennent, ça on le sait par les réseaux sociaux. Et puis tant mieux si des gens viennent nous découvrir à l'occasion de ce concert de lancement des semaines d'éducation contre les discriminations. Il y aura les deux, des nouveaux venus, et c'est très bien.
À quoi peut-on s'attendre avec un concert en acoustique comme celui que vous allez donner dimanche ? Est-ce que c'est un choix de votre part ?
Alors, c'est pas un choix, c'est aussi une question, on va le dire clairement, de budget, parce que il faut aussi soutenir l'association qui organise cette opération-là. Il n'est pas question de dire, nous, c'est absolument à 4. Dès qu'on vient à 4 avec une régie, etc., ça coûte plus cher. Le but, c'est quand même de faire quelque chose, un événement qui coûte pas trop cher. Et là, on va proposer une prestation qui va être de qualité. On est tous les deux en acoustique, mais derrière nous, il y a un ordinateur qui tourne sur certaines chansons avec des arrangements qu'on a créés pour l'occasion. Et donc, du coup, c'est une question d'une part économique. Et ce format-là, on le fait assez régulièrement, notamment dans les opérations caritatives. Ça marche hyper bien. Les gens adhèrent à fond au projet et à la fin, tout le monde est debout et en transe. Donc, non, je rigole, mais tout le monde finit, ça finit comme un vrai concert. Donc voilà.
Donc, c'est quoi la suite pour Archimède ? Est-ce qu'il y a des tournées, des projets, des dates ?
Alors, on a quelques dates qui arrivent cet été, et puis même au printemps. On joue en avril, là, à Saintes, dans les Charentes. On va se promener un petit peu partout en France cet été. Ça a été difficile quand même pour le booker de nous trouver des dates avec tout ce qu'on a pris cet automne de peur panique liée au Covid. Donc c'est pas simple de trouver des dates pour cet été, mais on va vraiment repartir pour de bon, a priori vers la fin de l'année, début 2023, puisqu'on planche sur un nouvel album. On sortira un album d'a priori 10-11 titres, là on en a 6-7, et donc on termine ce disque dans l'espoir de faire beaucoup de festivals en 2023. Mais voilà, on est dessus, on y travaille tranquillou.
Ce sera dans la continuité de ce que vous avez proposé jusqu'à maintenant ou...
Il y a toujours un renouveau dans un album, c'est les textes, les mélodies qui changent et les arrangements. Les arrangements, les costards qu'on taille aux chansons, c'est notre fibre, c'est la pop, ça va être des batteries guitare basse. Par contre, les textes, c'est une époque qu'on vit. Tout à l'heure, on parlait de fibre sociale. C'est aussi lié à ce qu'on vit dans l'époque. Nico, il a des choses à dire sur ce qu'il vit au quotidien, sur ce qu'on ressent, sur tout ce qui nous arrive. Mais musicalement, on va rester dans une esthétique proche, on va dire, des albums, des premiers albums, plus que le dernier Pop Decennium, qui était vraiment une revisite avec guitare acoustique et violon. Là, on va revenir à des choses un peu plus abrasives avec du rock, des vraies guitares, etc.
Et si vous souhaitez vous inscrire pour assister au concert d'Archimède dimanche, sachez qu'il reste une dizaine de places. Vous pouvez glaner ces places en vous inscrivant depuis la page Facebook du groupe. Pour rappel, l'inscription est gratuite. On écoute maintenant Presqu'île, chanson de l'album Pop Decennium dont nous parlions juste avant.
D'étranger à soi. Qu'on ne soit jamais qu'un hôte, un hôte dans le corps d'un autre. Qu'on mène une existence à contresens, plombée d'angoisse et d'errance. Alors il faut rallier son propre continent, les amarres sont larguées, elle a pris les devants, elle est presqu'île de se jeter à l'eau, elle est presqu'île d'oser faire le grand saut, c'est un exil que de changer de peau, sa sphère d'asile. Elle y sera bientôt. Sur le macadam, quand on la croise, on lui dit madame à son grand dame. Elle, Cécile, dont l'état civil fut toujours une terre hostile. Elle va bientôt rallier son propre continent contre vents et marées, au nez des éléments. Elle est presqu'île de se jeter à l'eau, elle est presqu'île d'oser faire le grand saut, c'est un exil que de changer de peau, sa terre d'asile. Elle y thank you. de se jeter à l'eau, elle est presque île, d'oser faire le grand saut, tous les conciles, les prélats, les bigots lui sont hostiles, mais qu'importe en un mot, elle est presque. Une sorte d'étranger à soi.
C'était Presqu'île d'Archimède que vous pourrez retrouver sur scène à Mayenne ce dimanche dans le cadre donc des semaines de lutte contre la discrimination. Et on va passer à notre chronique sport avec Steven qui est en studio avec nous aujourd'hui. Salut Steven.
Salut Marie.
Et on va parler du beau parcours des basketteuses U18 du Sud Mayenne en Coupe de France. Et oui, puisqu'elles se sont qualifiées pour les 16e de finale. Et le match a lieu demain midi ou demain après-midi d'ailleurs à Angers. Et forcément, qui de mieux qu'en parler que toi, leur coach Steven. Alors déjà, qu'est-ce que ça représente cette qualification à ce niveau en 16e de finale de Coupe de France pour ces joueuses?
Alors tout d'abord, c'est historique, on va dire, dans l'histoire du club qui a été créé justement en 2014. Une réussite, un succès, puis surtout un très beau titre pour cette génération qui justement on appelle une génération dorée, qui auparavant n'a pas forcément eu la chance d'avoir des titres ou des matchs références. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le résultat d'un travail sur 3 ans, voire même plus. Et donc l'idée, c'est de continuer à réaliser l'exploit et justement de ne rien lâcher.
Et elles sont passées, j'imagine, par plusieurs étapes avant, plusieurs matchs. Ça a été difficile à chaque fois, très accroché.
On a eu les tirages les plus difficiles. En quart de finale de Coupe territoriale, on reçoit Cholet-France à la maison. On va dire que c'était le leader, en tout cas pour justement être à notre place en 16e de finale. Et à domicile, avec un public, on va dire, assez furieux, on a réussi à faire l'exploit en gagnant 18 points contre une équipe de championnat de France, ce qui représente quand même 2 niveaux au-dessus de nous. Puisqu'on était en U18 R2, puisqu'on est monté en R1 justement en janvier. Donc ça représentait quand même une grosse performance. Derrière, on a joué 2 équipes U18 R1 justement à Lamboisière et le NEC, justement qu'on a retrouvé en poule, qu'on a joué il y a 3 semaines et qu'on a mis 18 points alors qu'on a gagné qu'au buzzer le titre régional. Et donc voilà, aujourd'hui on est en 16e et donc on va essayer de faire un petit peu mieux.
Donc un très joli parcours, on le voit aussi, il y a aussi cette progression sur le championnat. C'est pas trop difficile de devoir jouer sur les deux tableaux, à la fois cette Coupe de France et le championnat, ou la Coupe de France c'est vraiment le bonus finalement?
On va dire que c'est le bonus parce que quand je suis arrivé on avait dit qu'on ferait 3 ans, on est dans les clous en termes des objectifs, c'est une génération qui mérite et donc c'est un peu comme la Coupe Davis. T'as le championnat où, de toute façon, nous, on n'a rien à jouer puisqu'on savait très bien qu'on allait monter par l'expérience parce qu'on n'a pas eu les places à cause de la Covid. Et donc, l'idée, c'était vraiment de kiffer, on va dire, entre guillemets, avec l'équipe sur une coupe, on va dire, un championnat à part que le championnat classique. Et la preuve, c'est que j'ai bien fait de miser sur cette option puisque personne n'aurait parié une équipe mayennaise en 16e de Coupe de France. Je crois que c'est même historique pour le comité départemental de la Mayenne.
Ah oui, c'est jamais arrivé en tout cas.
Non, et encore moins une équipe mayennaise.
D'accord, donc d'autant plus important aussi. Qu'est-ce qui fait que dans cette équipe, ça fonctionne bien entre elles? Déjà, j'imagine qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble, mais pas que. Quelles sont leurs qualités qui fait que ça marche?
C'est des filles qui jouent ensemble depuis U13. Elles sont passées par un parcours de joueuses classiques avec des sélections, des filles qui étaient en section sportive qui s'entraînent quand même 3-4 fois par semaine. Et puis, moi, j'ai essayé d'apporter ma touche, on va dire, sur plutôt l'aspect préparation mentale, où les filles, déjà, c'est des copines. Elles ont des attitudes, elles ont des envies. C'est surtout dans la tête où elles ont compris qu'il fallait avoir confiance en elles et en leurs capacités. Et donc, dès que tu as confiance, c'est le jeu, le basket y suit, puisque c'est des filles qui possèdent déjà les qualités techniques. C'est surtout, voilà, j'ai essayé d'apporter, on va dire, dans la tête. Et voilà, c'est juste vraiment kiffer ensemble, et puisqu'on sait très bien que l'année prochaine, ça sera pas le même groupe avec pas le même coach. Donc, il faut profiter.
Donc d'autant plus sur cette troisième année. Et on espère que ça va marcher aussi. Donc demain, le match sera contre Sotteville-Barentin. Est-ce que c'est une équipe que vous redoutez un peu là, avant le match?
Gros morceau. J'ai regardé un petit peu, comme tout le monde, quand t'es coach, t'essayes de scruter un peu Les résultats, alors Sotteville-Bérentin, une équipe de Normandie qui n'a pas perdu un seul match depuis septembre, qui joue aussi en région, donc c'est pour une fois un tirage favorable, parce qu'on aurait pu rencontrer une équipe de centre de formation l'UFAB ou Mondeville, où là, voilà, on sait très bien que la hiérarchie, même si le sport peut faire beaucoup de choses, et donc invaincues, elles sont vraiment invaincues depuis, là, elles ont joué jusqu'au début janvier, elles mettent 60 points d'écart, elles gagnent de 60 points d'écart contre la plupart de leurs équipes, de moyenne. On va dire que le niveau Pays de Loire n'est pas forcément celui de Normandie. On va dire que la R1 parfois peut montrer un peu du championnat de France qui peut là-bas être de la région, mais voilà, moi je m'attends à un match hyper difficile. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 40 minutes puisqu'on joue à Angers, elles auront 3 heures dans les jambes,
on aura
une prépa physique importante, on va s'entraîner une heure avant elles, voilà, on va essayer de mettre tout en œuvre, on va dire avant, pour essayer de les surprendre, et puis le public va se déplacer, il y a un quart de prévu. Donc il y avait 60 personnes à la finale régionale, il y avait que du bleu partout. Donc on compte vraiment sur c'est vraiment, on va dire, un événement club où même si on perd, on aura vraiment porté les couleurs du département et surtout du club.
Ça c'est important, j'imagine aussi de savoir qu'il y a tous les supporters qui seront là pour mettre l'ambiance et les soutenir aussi tout au long du match.
Avec la Covid en plus, le Sud-Mayenne est quand même un club familial. Donc la Covid a fait que les gens, ils ont envie de sortir, ils veulent aller voir. Et on va dire que les filles, c'est un peu le petit rayon de soleil derrière la grisaille. Et pour donner un peu une ordre d'idée, ça peut partir d'un licencié qui a eu jusqu'à 5 ans, qui est dans le mini-basket, à notre doyen Jean-Louis Viaud, qu'on a 74 et qui sera là demain avec son fanion Sud-Mayenne pour donner un peu de voix.
Est-ce qu'il reste des places d'ailleurs pour ce bus ou
pas? Ah, il est complet.
Ah non, ça y est.
C'est mieux quoi. C'est
tant mieux,
une
bonne nouvelle.
Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont venir en voiture puis pour voir les matchs après, justement pour voir peut-être notre futur adversaire pendant les huitièmes quoi. Mais voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. La salle Jean Bouin est impressionnante puisque c'est la salle des pros. Elle sera pas pleine, ce sera du parquet. Donc jouer coaché dans une salle, je crois que c'est la plus belle salle on va dire du territoire. Donc voilà, on espère que le public sera serré derrière nous, je pense, juste derrière le banc pour porter un peu de voix.
Et la suite, du coup, si vous gagnez ce match
Si on gagne ce que j'espère, on se qualifiera pour les huitièmes de finale, ce qui serait encore c'est même plus un exploit, on ne nous attend pas du tout ici. L'avantage, c'est qu'on est outsider, donc moi je me sens outsider sur tous les matchs, donc ça ne met pas de pression fille, et je veux qu'on soit outsider parce qu'on sait très bien que ça change. Si on passe aux huitièmes, ça sera le plaisir de jouer contre une équipe de centre de formation. Je pense que Mondeville gagnera contre Angers puisqu'elles ont mis 50 points à Angers en championnat classique. Pour Mondeville, pour un peu les auditeurs, c'est 10 joueuses physiques entre 1,80 et 1,90 et surtout 3 joueuses qui jouent en équipe de France U18, l'équipe nationale. Donc voilà, je ne dénigrerai pas mon équipe, mais la ligne du médiane du milieu sera pas facile à passer.
Oui, on comprend en tout cas l'écart qu'il peut y avoir
entre les deux filles équipes. Qui s'entraînent 2 à 3 fois par jour. Nous, on s'entraîne 3 fois par semaine plus un match. Voilà. Mais c'est le plaisir de coacher et de jouer contre...
C'est la magie de la Coupe de France.
Complètement, voilà.
Qu'on pourra retrouver donc demain, puisque le match est à 13h30 à Angers, donc plus de place dans le bus. Mais par contre, si vous voulez aller les soutenir, évidemment, c'est possible.
On aura besoin de tous les gastro-contériens ou gastro-contériennes.
Merci beaucoup Steven, en tout cas pour cette chronique. On te retrouve évidemment vendredi prochain avec un nouveau reportage ou une nouvelle chronique. On va passer à l'agenda de ce week-end et des prochains jours, avec une exposition visible justement dès ce week-end au quartier des Pommerais à Laval. Exposition par le photographe Arnaud Rouanet, qui a passé 4-5 mois à la rencontre des habitants de ce quartier. L'exposition sera ouverte de 14h30 à 18h le samedi et dimanche jusqu'au 6 mars inclus. Et elle est installée dans l'appartement 233 de la rue du Préfet Bonnefoy à Laval. Et puis, côté du Festival du cinéma italien, qui se délocalise pour une première fois. Et c'est à Château-Gontier au cinéma Le Palace, avec 2 films proposés la semaine prochaine, Akira de Jonas Carpignano. Désolé par avance pour tous les noms que je vais écorcher en italien. Donc un film qui sera proposé en avant-première mardi soir, autour de la mafia calabraise. Et vendredi soir, Mio Fratello Rincorrei Dinosauri. là encore pire pour l'accent, de Stefano Cipani autour du handicap, de la famille et de l'amour. Vous pouvez déjà réserver vos places au tarif de 5 euros sur le site du cinéma Le Palace. Et puis un autre ciné-débat, lui, sera proposé jeudi prochain à Laval par Ciné Ligue 53 et la section départementale de la MGEN avec le documentaire L'intelligence des arbres de Julia Dordel et Guigo Tolke. Projection à 19h30 jeudi à l'avant-scène, qui sera suivie d'un débat avec Gérard Clouet de Mayenne Nature Environnement. Là aussi, l'entrée est à 5 euros. Et puis ce même jeudi à 20h, du théâtre avec une histoire de fou et le spectacle Grain de la compagnie Et oui, c'est pas très radiophonique, mais c'est le nom de la compagnie. Il est proposé à l'espace culturel Saint-Clément à Cran. Et c'est l'histoire d'une comédienne en herbe, Marie Magdelaine, qui débarque au Grain, le groupe de réhabilitation après un internement ou n'importe, pour y animer un stage de théâtre dans lequel elle va rencontrer toute une galerie de personnages plus bancals les uns que les autres. Et ce sera suivi d'une discussion avec Théodora Moldovan, psychiatre au centre hospitalier du Haut-Anjou. Tarif pour ce spectacle entre 3 et 13 euros. Réservation par mail à culture@paysdecran.fr. Et puis vous pouvez aussi vous rendre sur notre page Facebook pour gagner vos places pour le spectacle Et le cœur fume encore de la compagnie Nova. Ce sera jeudi prochain à 20h30 au Théâtre des Ursulines à Château-Montier, dans le cadre du temps fort autour des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. On reviendra justement sur ce temps fort mardi dans cette émission, puisque c'est la fin aujourd'hui de l'émission L'Agité du local. Merci Simon d'avoir été avec nous et merci pour cette semaine.
Merci Marie, merci.
Et puis peut-être bientôt sur les ondes. En tout cas, évidemment, les émissions se poursuivent à 20h. Passe-moi le thème qui sera consacré ce soir au groupe dont le nom contient un nom d'animal. Et puis ce week-end samedi, donc demain à 11h, L'Enfant a des droits. À 13h, retrouvez Rock Dreams, suivi à 17h de Bud Station. Nous, on se retrouve lundi à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.